Les pieds sur terre, quartier d'été, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
L'histoire commence en 1997 lorsque Valérie rencontre son futur mari de nationalité allemande. Ils s'unissent l'année suivante et donnent naissance à une petite fille en 1999. Comme c'est souvent le cas dans les familles allemandes, le mari de Valérie l'encourage à rester à la maison pour s'occuper de leur enfant au moins quelques années. La famille vit en France, à la frontière avec l'Allemagne, pour permettre au mari d'y travailler. 2 ans plus tard, un deuxième enfant naît, mais le couple ne s'entend pas très bien. En 2002, Valérie décide de se séparer et demande le divorce. Son mari retourne alors vivre en Allemagne chez ses parents. Pendant un temps, Valérie, qui cherche du travail et n'a donc pas beaucoup de ressources, accepte à contre-cœur de laisser la garde des enfants à son mari. Elle leur rend visite régulièrement. Elle retrouve enfin un emploi, mais la situation s'envenime. Valérie parvient de moins en moins à voir les enfants et même à leur parler au téléphone. Ils ne sont jamais là ou pas disponibles, il y a toujours quelque chose. Jusqu'au jour où elle se déplace, force la porte et apprend de sa belle-mère que son ex-mari a décidé qu'elle ne verrait plus les enfants. C'est une histoire que j'ai trouvée sur un site consacré aux enlèvements d'enfants au sein de l'Union européenne, qui ne sont pas rares, surtout en Allemagne. Valérie se rend alors au commissariat le plus proche, mais les autorités ne peuvent apparemment rien pour elle. Elle n'a pas les moyens d'engager un avocat et ne connaît pas les associations qui aident ce genre de cas. Même si elle saisissait la justice, son divorce serait rejugé et la garde probablement confiée au père, vu ses maigres revenus. En 2015, Valérie n'a toujours pas revu ses enfants. Elle est déchue par l'Allemagne de ses droits parentaux. Un beau jour, elle reçoit un courrier de l'avocat de son ex-mari qui lui demande même de verser une pension alimentaire. En décembre 2015, elle est condamnée par défaut par un tribunal allemand à verser 710 euros par mois de pension alimentaire, si l'on en croit du moins ce témoignage saisissant. Tout de suite dans Les Pieds sur Terre, 2 autres histoires d'enlèvement d'enfants hors de l'Union européenne, mais qui ont hélas ce même goût d'injustice et d'impuissance. Reportage Stéphanie Thomas.
Je m'appelle Miguel Manrique, j'ai 47 ans, bientôt. Je suis père de 2 enfants, un qui va avoir maintenant 15 ans et un autre qui va avoir 9 ans. C'était exactement il y a 15 ans, un petit peu plus, 16 ans. En tant qu'ingénieur du son, j'étais parti à un festival de films et c'était à Lille. Et là, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je suis tombé amoureux. C'était une Israélienne, donc on a eu le projet d'avoir un enfant. Elle voulait en fait accoucher en Israël, et donc on est parti là-bas pendant quelques mois. Donc mon fils est né là-bas, et au fur et à mesure que le temps passait, je me suis retrouvé coincé là-bas. Elle voulait pas tout de suite revenir, et elle voulait être avec sa famille, et ce qui est compréhensible. Et je suis resté finalement 4 ans. Économiquement, c'était pas terrible parce que moi, j'avais continué à faire du son là-bas, mais c'était quand même pas pareil qu'ici. Il y avait beaucoup de tensions avec le Liban à l'époque, et donc c'était le début de la guerre avec le Liban, et donc on a profité pour venir, et on est revenu. Donc mon fils a intégré l'école, il était donc en moyenne section de maternelle. Et voilà, et tout se passait plutôt bien. Quelques années plus tard, on a eu la nouvelle d'un autre petit garçon qui allait arriver. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à avoir un peu de conflits, un peu de problèmes, parce qu'elle voulait encore une fois accoucher en Israël. Et que là, moi, je n'étais pas prêt à repartir pendant 8 mois ou 5 ans ou peu importe. Voilà. Donc moi, je voulais plutôt que ça se passe ici. Donc on a dû en parler très longtemps. Et comme la situation était un peu quand même difficile, J'ai fini par céder, encore une fois, et elle est repartie pour accoucher là-bas. Et mon fils aîné, donc, est parti avec elle pour rester les vacances. Donc voilà, donc ils sont partis. Et puis moi, un mois après, je suis parti la rejoindre. J'étais venu un petit peu avant parce qu'en plus, c'était l'anniversaire de mon fils. Et la veille, j'avais eu mon fils au téléphone de Paris. Et on avait organisé son anniversaire au téléphone, comment est-ce qu'on allait faire. J'avais apporté des confettis, des trucs de Paris. Et à l'arrivée du village où j'habitais, je suis sorti de la voiture et un monsieur est arrivé avec ma belle-mère. Ils sont venus en marchant vers moi en me disant qu'il y a eu des problèmes et que donc on m'a donné un papier en hébreu, donc je ne comprenais pas du tout. En gros, en me disant que je n'avais plus le droit de voir mon fils, ni mon futur fils, donc, et que je n'avais pas le droit de les voir, ni les appeler, ni m'approcher trop du village. Et donc il y avait ce qu'on appelle une restriction de localisation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'approcher de plus de 5 kilomètres. Pour mon cas, c'était ça, 5 kilomètres de là. Et maintenant, je peux en parler tranquillement, calmement, hein, parce qu'il y a quelques années, j'aurais eu du mal. En fait, je craquais. Mais maintenant que ça fait longtemps et que je prends du recul, je réussis maintenant à en parler sans m'en porter trop émotivement. Bon, donc du coup, ça a été un choc parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je fasse demi-tour, que je reparte. Donc il était déjà, je crois, que 18 heures. Il a fallu que donc je trouve un hôtel en plein milieu de nulle part. En plus, c'était un petit village en plein milieu de nulle part. Et donc à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, c'est curieux, le chauffeur de taxi a dû se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et il n'est pas parti. Bon, les deux, ma belle-mère et la personne qui était là, qui était un avocat, en fait, ils sont repartis. Et le chauffeur de taxi est sorti. Il m'a dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, en fait, je me suis effondré. Et puis voilà, à partir de là, a commencé toute une bataille qui en gros dure jusqu'à maintenant, à peu près. Voilà. Ça, c'était en 2006. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai appelé ma mère le soir même, je crois. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à essayer de trouver une solution, en fait. J'ai eu de la chance, en sachant que j'ai eu l'aide qu'il fallait assez rapidement, en fait. J'ai trouvé un avocat en France qui m'a appelé. Et à un moment, cette dame me dit, bon, mais par contre, ce que vous devriez faire, c'est appeler mon collègue en Israël qui lui s'occupera de vous là-bas. C'est le spécialiste en Israël et c'est celui qui s'occupe des enfants qui sont, on appelle ça un enlèvement. Donc moi c'était déjà la première fois que j'entendais ce mot. Voilà. Donc pour moi tout d'un coup, je n'ai un enlèvement. Ah oui, oui, ça s'appelle un enlèvement parental. Ah bon. Bon, moi d'accord. Et donc je l'appelle ce monsieur-là et il m'a donc traduit le papier au fur et à mesure. Il y avait 21 pages. Il y avait je ne sais plus combien accusations. Je l'ai arrêté au bout de la deuxième page, en fait, parce qu'au bout d'un moment, je crois que je ne pouvais plus les écouter. Et donc, la raison principale de ce dossier, c'est que moi, du coup, en conclusion, j'étais un homme très dangereux, et dangereux pour elle et pour mon fils. Enfin, mes enfants, du coup. Et lui-même, il m'a dit, bon, écoute, il m'a dit, c'est très simple, c'est typique, ce genre de papier, c'est typique. On porte les accusations au maximum pour pouvoir obtenir le papier en question qui était de t'empêcher de voir les enfants. En fait, c'était très prémédité. Et puis, pratiquement 2-3 mois, ils étaient en train de travailler avec toute la famille là-dessus. On s'était mis en contact avec des avocats, des gens de l'ambassade israélienne, des gens de la communauté religieuse, des rabbins. Enfin, tout était prêt, en fait, pour ce jour-là, en réalité. Mais il y a une convention qui est une convention internationale qui s'appelle la Convention de La Haye, qui a été signée par la France et Israël. Et donc, il y a une loi internationale qui protège les parents et les enfants de ce genre d'action. Donc, on va entamer une mesure en justice. Ça prendra du temps, mais donc voilà. Il a fallu que je passe une expertise psychiatrique sur place avec un psychiatre spécialisé dans les enfants qui sont maltraités. Il y a une assistante sociale qui a dû aussi prendre le dossier en compte. Et finalement, au fur et à mesure que le temps passait, l'expertise psychiatrique en fait était en ma faveur à la fin. L'expertise de l'assistante sociale aussi. Les gens qui venaient témoigner en fait témoignaient pour moi. Parce que comme moi j'avais vécu là-bas, en fait les gens me connaissaient. Et les gens la connaissaient elle aussi. Et ça c'est ce que je ne savais pas. C'est que peu à peu, au moment où j'ai commencé à me mettre en contact avec eux, ils me disaient qu'en fait, elle avait toujours été comme ça depuis toute petite et qu'elle était très instable et que ça ne les étonnait pas. Et donc, au bout de 8 mois, la première décision de justice en Israël arrive. Et donc, le juge israélien décide qu'effectivement, mon fils aîné doit rentrer en France. Donc à partir de tel jour, c'était le 15 juillet, je devais récupérer mon fils et le ramener en France. Le jour où je suis venu pour le chercher, en fait, ce jour-là, ils ne sont pas venus. En fait, ils ont disparu. Voilà. Elle était devenue religieuse en espérant de tourner la décision des juges en sa faveur. Ça n'a pas marché. Mais elle a réussi à trouver de l'aide de la part de la communauté religieuse très 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 orthodoxe, très 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 extrême, et qui lui ont dit, si tu ne gagnes pas légalement, dans ce cas-là, nous on s'occupe de toi et on te protégera. La communauté religieuse extrémiste en Israël est très puissante, et même si c'est une minorité, il y a quand même des villes entières qui sont complètement gérées par cette communauté-là et qui est très difficile d'accès. La police ne rentre même pas. Il y a eu toute une campagne de recherche faite par le gouvernement israélien. Il y avait le visage de mon fils dans tous les commissariats en Israël. Donc à partir de ce moment-là, moi j'ai décidé effectivement de faire appel aux médias parce que là c'était fini. Je ne pouvais plus. J'étais allé aussi loin que je pouvais légalement. J'ai eu l'opportunité de faire une émission sur TF1. 8 jours plus tard, à peu près, l'ambassade m'appelait pour me dire qu'ils avaient retrouvé mon fils. Et là, ça a été encore une autre histoire terrible parce qu'ils ont été mis dans une famille d'accueil religieuse et la famille d'accueil religieuse ne voulait pas les redonner. Donc il a fallu aller avec la police. La police a dû rentrer de façon très violente dans cette maison pleine de religieux extrémistes. Il a fallu sortir de là avec mes deux enfants, avec l'assistante sociale qui avait peur. Et donc je suis reparti avec mes deux enfants. Suivi par les religieux en voiture. Et là, après, je suis resté à peu près 2 mois avec mes deux enfants. Donc déjà, ça a été le choc, la réunion de les revoir. Ça a été quelque chose d'incroyable. J'avais la garde des deux, mais on ne me donnait pas la sortie du territoire du deuxième. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne l'ai jamais récupéré. J'ai pris cette décision de partir avec mon fils aîné. Donc mon fils aîné, maintenant, je vis avec mon garçon qui va avoir 15 ans. Ça a été très difficile pour lui aussi. Il a retrouvé une certaine paix en revenant dans son quartier d'origine. Il a retrouvé ses amis d'origine avec qui il est encore ami. Et ça l'a vraiment rassuré. Après, il y a le fait qu'il est séparé de sa mère. Et ça, c'est très difficile. Le petit, alors lui, il va avoir, pareil, il va avoir 9 ans en fait. Quand on le voit, il a l'air heureux. C'est-à-dire qu'il a un sourire énorme. On a l'impression que la gaieté sort de son visage en permanence. Donc c'est quelque chose quand même de rassurant. Mon fils le plus grand, lui, sait que d'ici 4 ans, lorsqu'il aura 18 ans, il pourra aller en Israël et donc du coup le revoir. Moi aussi d'ailleurs, je pourrais y aller sans avoir de crainte qu'encore quelque chose me tombe dessus comme surprise. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on pourra construire quelque chose et on verra bien si plus tard, quand il sera grand, on pourra développer une relation. Mais je pense qu'on n'aura pas autre chose avant, malheureusement.
France Culture, les pieds sur terre. Alors, j'ai rencontré mon ex-compagnon à Paris quand il est venu voir des anciens collègues. Il avait travaillé pour une équipe de télévision en Jordanie. Et en fait, il avait sympathisé avec tout le monde. Et quelques mois après le tournage, il est venu en France. Voilà, et je l'ai rencontré à cette occasion-là. Imad était un homme qui s'adaptait extrêmement vite à la langue française. On s'est rencontrés, il ne parlait pas français, il a appris très très vite. Quelqu'un de très très entreprenant, qui m'a tout de suite accaparé, qui a senti en moi probablement une grande solitude et qui m'a apporté tout ce dont je rêvais, quoi. Enfin, vraiment le profil idéal de la personne qui comble l'autre. Et puis, je l'ai aidé à trouver du travail. Il a été aussi d'une adaptabilité phénoménale. Vraiment, c'était prometteur. La vie se construisait. Très rapidement, j'ai eu une petite fille qu'on a appelée Balkis, qui est le prénom de la reine de Saba. C'était vraiment une petite fille extraordinaire, extrêmement vive. Je la regardais quand je l'emmenais à l'école, arrivée dans la cour de récré, je regardais entre les grilles et elle était attendue par toutes les copines et tout le monde, il y avait toujours 4 ou 5 copines qui arrivaient sur elle et qui disaient « Alors Balkis, alors ?» Et il se passait toujours plein de choses à se raconter, à dire, à faire. C'était une petite fille vraiment extrêmement vive. Ouais, ouais. Beaucoup de gens nous disaient « Vous êtes un couple idéal de mixité, d'ouverture. » On était presque un exemple aux yeux de beaucoup de personnes. Vous êtes vraiment super, tous les deux. Une grande ouverture, une grande tolérance entre vous. Voilà, c'était très prometteur. Relation, le comportement d'Imad s'est tendu, il est devenu de plus en plus agressif avec moi, verbalement. Physiquement, il n'y a jamais eu quoi que ce soit, enfin, en tout cas physiquement sur moi, sur des objets, oui, mais pas sur moi. Et à un moment, j'en pouvais plus, donc je lui ai demandé qu'on se sépare. On a eu rendez-vous chez le juge, il a tout accepté, il a dit qu'il se conformerait à la loi française, qu'il était d'accord avec le jugement. En me demandant de l'héberger ici, en attendant de trouver un logement, Balkis, il met bien Balkis au milieu de notre histoire, c'est-à-dire que Balkis va venir me dire « Maman, s'il te plaît, papa, il va aller dormir dans la rue, je veux pas qu'il dorme dans la rue », donc j'avais la possibilité d'héberger, j'ai une petite chambre. Donc on a cohabité pendant 2 ans, ici, où ça s'est relativement bien passé. Puis à un moment donné, il m'a demandé l'autorisation de partir en Jordanie avec Balkis. Ça se passait plutôt bien et voilà, j'ai autorisé parce que les choses étaient redevenues dans l'ordre. Et du coup, un été, il est parti avec elle et j'ai compris... en fait, dans une circonstance extrêmement dramatique, que Balkis ne reviendrait pas. Un matin, je partais au travail, elle était en vacances avec lui, et mon banquier m'a appelé pour me dire que j'étais à découvert de 93 000 euros sur mon compte. Et en fait, durant ces 2 années, il a gardé des chèques en blanc. Il me disait qu'il n'avait pas d'espèces pour payer le docteur pour Balkis, pour emmener la voiture en maintenance, en réparation. Donc j'ai fait des chèques en blanc. Et il a gardé ses chèques, en fait, finalement. Et là, il a mis des sommes phénoménales sur les chèques. Donc, j'ai appris dans le bureau de mon banquier que j'étais à découvert de 93 000 euros et qu'en fait, la personne qui allait encaisser cet argent, c'était Imad, le père de ma fille, sur un compte en Jordanie. Je suis partie en Jordanie très, très vite. Et là, j'ai vécu un enfer. Je ne m'attendais pas à autant de violence de la part de cette famille qui m'avait semblé tout à fait correcte quand j'étais allée en vacances là-bas avec lui. J'ai été reçue
seule femme avec 50 hommes de la famille. Il y avait une effervescence comme si on se préparait à faire la guerre, ça bougeait dans tous les sens. Et le frère d'Imad, que j'avais vu très sympathique avant, avait les balles de revolver en bandoulière, le pistolet aussi visible, et la violence a été verbale, je ne comprenais pas parce que c'était en arabe. Quelqu'un me servait de traducteur, mais c'était quelqu'un de la famille qui faisait ce qu'il pouvait en anglais. Et puis moi, je comprenais aussi que je pouvais à ce moment-là. Et surtout, le grand frère d'Imad et le grand-père m'ont menacé de mort, ma fille, si je faisais appel à des avocats, à la justice. Trois fois de suite, ça a été répété, que si je tentais quoi que ce soit, il la tuerait. Et à ce moment-là, je n'avais pas vu ma fille, je n'avais aucune nouvelle de ma fille, je ne lui avais pas parlé, j'étais très très inquiète pour elle, qu'est-ce qu'elle pouvait penser. Un petit peu plus tard, grâce à quelqu'un qui a négocié, j'ai pu voir ma fille, elle m'a dit qu'elle avait pensé que je l'avais oubliée. Et pour moi, ça a été terrible de penser ça. Oui. J'ai revu ma fille pratiquement à chaque fois que je suis allée en Jordanie, mais dans de très mauvaises conditions. Balki s'est passé par plusieurs phases. La première phase, ça a été le choc de l'enlèvement, où petite fille de 8 ans, quand je la voyais, elle avait des cernes. Elle était plus du tout la petite fille que j'ai connue dans la cour de récré avec toutes ses copines, très dynamique. Elle était devenue très réservée, se tenait de manière très prude. Elle mesurait tous ses faits et gestes, tous ses mots elle regardait souvent autour d'elle si on nous écoutait, si elle avait une méfiance énorme. Et au fur et à mesure, je l'ai vu s'adapter, je l'ai vu aussi à un moment donné oublier son français. Ça a été une période très difficile pour moi parce que on a eu des problèmes de communication à un moment donné. Elle a tellement senti qu'il fallait qu'elle s'intègre et tellement été coupée de moi par téléphone. Il y a eu des moments où je pouvais plus du tout lui parler en fonction de la bonne volonté de son père. Et du coup, ces grands moments de silence lui ont fait oublier la langue française. Au tout début, le père de ma fille m'a fait croire qu'il voulait signer un protocole d'accord qui comprenait évidemment la suspension de la plainte en France, la suspension du mandat d'arrêt international, qui pourrait comprendre le retour de notre fille en France au moins pour les vacances, et puis le fait que je puisse la voir comme je veux et être avec elle. Et pendant ces 6 années, finalement, j'ai continué à avoir espoir. Je me disais, on va y arriver, quoi. On va y arriver vraiment. Jusqu'à la dernière fois, c'est-à-dire là, au mois de janvier, où à chaque protocole, il est d'accord. Et à chaque fois, il ajoute une dernière chose au dernier moment qui est tout simplement impossible. Ça a été, par exemple, 1 million d'euros sur un compte en gage du fait que si Balkis vient en France, elle va bien revenir après en Jordanie. Une fois de plus, là, en janvier, c'était pratiquement d'accord, tout allait bien. Et là, c'était oui, on signe, mais Balkis ne viendra en France que dans 2 ans, en 2019. Alors j'ai dit non, maintenant ça suffit, ça y est. Là, je vais à la justice et je vais demander mon droit d'être avec ma fille, pour que ça soit dans les règles. Mais même ça, c'est pas facile en Jordanie, parce que la justice à Aqaba, dans la ville où Balkis va à l'école maintenant et où il habite officiellement, la famille a mis la pression sur le juge, sur la police de la charia et sur mon avocate. Et donc le jugement qui a eu lieu a été complètement faussé. Et depuis 2 ans, je n'ai eu aucune application de ce jugement possible. Et je n'ai pas vu ma fille. Du tout. Du tout, du tout. Et voilà, ça fait 6 ans Et rien ne se passe, je suis dans une impasse, mes cris on les entend, tout le monde les entend, tout le monde est touché par mon histoire mais il ne se passe rien. J'ai rencontré Michèle Alliot-Marty qui était ministre des Affaires étrangères, elle a rencontré le roi. Le roi lui a dit mais mon père m'a toujours exprimé le respect envers la mère, c'est très important pour nous en Jordanie que la mère c'est le centre de la famille et en fait rien, on ne peut rien. Je ne sais pas pourquoi c'est resté comme ça aussi longtemps dans cette impasse alors que tout est condamnable dans ce qui s'est passé. Tout, tout, tout. Et cette petite fille, Balkis, ma fille, c'est énorme de penser tout ce qu'elle subit au quotidien. À chaque fois que je l'ai vue, je lui ai répété que notre amour est plus fort, que j'oublierai jamais, que je l'attends. Que dès qu'elle voit la lune et les étoiles, elle sait que moi aussi je vois la lune et les étoiles, et que du coup elle peut leur dire qu'elle m'aime ou qu'elle pense à moi, et que surtout elle ne doute jamais, jamais, jamais de moi, de ma volonté de la retrouver, de ma force d'y croire, et surtout je crois beaucoup en elle. Et à chaque fois je lui dis qu'elle est forte. Qu'elle a une mère qui est forte, une grand-mère qui est forte, elle a eu un grand-père très fort aussi. Et qu'il faut qu'elle pense à eux, beaucoup, 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 beaucoup. Toute cette force, tous ces caractères aussi. Elle a un grand caractère, ma fille, et elle ressemble beaucoup aussi à ses deux grands-parents de mon côté. Et je vois bien qu'elle m'aime toujours. Ça, c'est énorme. C'est beaucoup d'espoir. Voilà.
We sat beneath a tree wrapped in shades of pink. And spring evolved her speech. The blossoms speaking with borrowed comfort scent from bottles made of glass. Ay, Sakura, mono no awade.
C'était Des enlèvements d'enfants, un reportage de Stéphanie Thomas réalisé par Marie Placet avec un coup de main de Vanessa Nadjar. Cette émission a été diffusée pour la première fois en mars 2017. Merci à Nancy, à Miguel et à Pierre Chassagneux. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Sandrine Chaperon n'est jamais loin. Suspended curly.